18h02, toute l'info près de chez nous, édition du soir présentée par Fabien Gazot. Bonsoir Fabien.
Bonsoir David, bonsoir à tous. Le sport à la une de l'actualité ce soir, puisque nous allons revenir sur la folle soirée à la Meilleraie. Hier soir, les basketteurs scholtais se sont qualifiés pour les playoffs. En handball, Salzerbel joue ce soir face à Nice, son dernier match de la saison à domicile, en ayant l'assurance de se maintenir en ligue. Un exploit majuscule pour le président Fred Vigné. Dans le reste de l'actualité, on fera un point sur le Covid, puis nous verrons que les élus de Toircey ont reçu une délégation régionale s'intéressant à la revitalisation des centres-bourgs. Organisés tous les deux ans au château de Mauléon, les médiévales reviennent ce week-end. En 2018, plus de 5000 personnes s'étaient retrouvées pour se replonger à l'époque moyenâgeuse. Enfin, on terminera avec une info qui nous concerne, mais qui vous concerne aussi, puisque Colline a un nouveau président.
La météo avec de l'orage demain peut-être en matinée, puis temps calme ensuite pour le reste de la journée.
Retour évidemment ce soir sur la qualification de Cholet Basket pour les playoffs. On ne pouvait pas rêver meilleur scénario. Cholet battant Monaco 92-85 dans le dernier match de la saison régulière et qui gagne en même temps son ticket pour les quarts de finale des playoffs dans une Meilleraie en fusion. Hier soir, galvanisé par le spectacle offert, Cholet Basket a fait tomber la Roca Team qui a brillé en Euroleague. Jérôme Mérignac, le président de Cholet Basket, ne cachait pas son bonheur.
On est là pour donner du plaisir, le partager avec les spectateurs, quand on voit cette salle-là ce soir, et en plus surtout avec une équipe de Monaco, parce que là c'était vraiment un match à enjeu, ils sont venus pour gagner, donc on s'est occupé de notre match, franchement bravo, c'était super, et puis quand ils reviennent à moins 4, on serre un peu les fesses, mais les joueurs ont été énormes, bravo à eux, le staff, l'équipe. Puis encore une fois, la Meilleraie est pleine. Franchement, c'est le pied.
Le bonheur de Jérôme Mérignac est d'autant plus grand que la situation a été compliquée, très compliquée au mois de décembre. On se demandait alors s'il n'allait pas démissionner, mais il a tenu bon et c'est tout le club qui s'est redressé.
L'ascenseur émotionnel, on l'a expérimenté. Je peux vous le confirmer parce que quand je fais ma conférence de presse mi-décembre, on est au fond du trou, mais je l'avais dit, je veux pas quitter le navire en pleine tempête. Et puis encore une fois, on est resté tous soudés. Encore une fois, le basket, c'est un jeu collectif. On l'a montré. Et on en retire tous quelque chose. Et puis en plus de pouvoir le faire à domicile, parce qu'on aurait pu gagner à l'extérieur, parce qu'on est, je crois, une des meilleures équipes à l'extérieur. Bon, on vient de faire le Valois et Monaco à la maison. Ça parle un peu, donc c'est sympa.
Et avec Villeurbanne, ça parle encore plus.
Ah oui, c'est le seul qui nous manque. Donc on sait tout le boulot qui nous reste à faire.
Car c'est l'ASVEL qui attend maintenant les Scholtais en quart de finale. L'ASVEL qui a terminé premier de la saison régulière. Mais pour l'instant, on savoure du côté de CB à l'image des joueurs Hugo Robineau et Boris Dalot.
Ouais, c'est incroyable, c'est une ambiance, j'ai jamais vu ça à la Meilleraie, c'était un truc de fou. Hein. C'est sur le terrain comme en dehors du terrain, je suis encore un peu sous le truc. Quoi.
Je pense toute l'énergie de la ville, les supporters et puis nous, c'est un cocktail qui fait que, je pense que l'énergie, on l'a vu sur le terrain, c'était... Je pense que les supporters sont contents, les dirigeants aussi, et voilà, on voulait vraiment... prendre ce dernier match pour profiter avec les supporters et notre famille, et c'est ce qu'on a fait.
Voilà, propos recueillis par Vincent Nori et François Larue hier soir. Le premier match des playoffs est prévu le 24 ou le 25 mai, mardi ou mercredi. L'ASVEL aura bien sûr l'avantage du terrain sur une série qui se déroule au meilleur des trois matchs. Il faudra gagner à la Meilleraie et remporter un match à l'Astrobal.
De la joie également, Fabien, à Salzerbel.
Les handballeuses jouent ce soir leur dernière rencontre de la saison à domicile face à Nice. Il restera ensuite un match ce week-end à Fleury et la saison sera terminée avec un objectif rempli. Celui de se maintenir en ligue féminine. Alors, exploit ou belle performance, un véritable exploit, selon Fred Vigné, le président Célois, qui ne voudrait pas que l'on banalise ce que réalise son club.
J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte de la triple marche qu'on a montée pour être à ce niveau-là et pour surtout s'y maintenir, parce que c'est quand même un championnat où joue une grande partie des meilleurs étrangers européennes, parce que le championnat français est un des plus relevés. C'est là où il y a des championnats olympiques et championnes du monde. Et de voir que notre petit club dans un village de 3000 habitants peut rivaliser au moins cette saison sur avec les autres, oui, le mot exploit, il n'est même pas assez grand. Je pense qu'il faut un E majuscule devant.
Celle sur Belle, maintenue en Ligue féminine, en LBE, ne reste plus qu'à savourer ce soir. D'autant plus que le recrutement est déjà bouclé pour la saison prochaine. 4 nouvelles joueuses vont rejoindre le club. La Congolaise Fanta Diaguraga, la Camerounaise Paola Ebanga, la Danoise Julie Ponto-Pidane et la Française Charline Aube-Bubble. La Danoise, notamment, est très attendue.
On pense réellement que c'est quelqu'un qui est au-dessus de la norme de notre recrutement, donc on verra si on a raison sur ces propos-là. Mais au vu de ses performances dans le championnat danois, où elle marque 10 buts par match, le championnat danois, c'est pas rien non plus, hein, c'était il y a encore quelques années le meilleur championnat européen. Donc c'est effectivement là-dessus, on est assez content et l'avenir nous dira si on a eu raison.
Celle sur Belle Nice ce soir à 20h30 dans le chaudron sellois qui affichera complet la rencontre et sachez-le télévisée sur Sport en France. La soirée permettra aussi de saluer les départs de plusieurs joueuses, Guillemette Colli, Laurine Chesneau, Laura Godard et Johanna D'Acosta.
Dans le reste de l'actualité, Fabien, on reparle du Covid ce soir.
La semaine dernière, le ralentissement de la circulation du Covid s'est poursuivi dans le département des Deux-Sèvres. Le taux d'incidence est désormais à 290 cas pour 100 000 habitants, soit 1082 nouveaux cas identifiés. On en était à 1254 la semaine précédente. 30 hospitalisations sont en cours. C'est moins 10 en une semaine. 21 patients sont hospitalisés en médecine conventionnelle, 2 en soins critiques et 7 en SSR, soins de suite et réadaptation.
Thouars-Ville, laboratoire à l'échelle régionale.
À l'initiative de Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, une cinquantaine d'élus et de techniciens venus de toute la région ont été accueillis à Thouars dernièrement. Une journée de travail à laquelle ont participé la sous-préfète Catherine Labussière et la conseillère régionale chargée de la revitalisation des centres-bourgs, Sandrine Hernandez. Une journée à phosphorer sur la ville de Thouars comme dans un laboratoire d'idées. Ce dont se félicite le maire Bernard Pénault qui a apprécié l'exercice, il le dit, au micro-colline de Dominique Hérault.
Il y avait des gens de Guéret, de Châtellerault, de Civray, de Jansey, de Poitiers, d'un peu partout, de la Nouvelle-Aquitaine, qui sont venus ici sur un territoire jugé par notre partenaire qui est la région exemplaire dans la conduite de projets nombreux et on va dire la cohérence et l'articulation de tout ça. Je veux parler de la rue Porte de Paris, je veux parler de Tindeau, si on va plus loin, je veux parler du cinéma et demain des places Lavaux et Flandre-Dunkerque, tout ça qui s'enchaîne dans un temps contraint avec des moyens importants et une conduite de projet. Donc on était montré comme un lieu d'exemple. On a travaillé, ils ont planché par groupe sur les différentes approches des projets, île au Berton, île au Sauget, etc. Et c'était en fait un terrain d'expérience pour tous ces gens-là. C'est très riche. Et ils nous ont rapporté le soir un regard un peu général sur ce qu'on faisait. Et c'était vraiment quelque chose d'intéressant. En présence bien sûr des services de l'État, la sous-préfète était présente. C'était une journée de travail enrichissante.
Enrichissant, le qualificatif parle de lui-même, dans la mesure où les travaux engagés par les collectivités correspondent à un certain volume d'investissement qui permettent d'enrichir la qualité urbaine et la qualité de vie des habitants. Reportage de Dominique Hérault qui nous signale que le chantier de rénovation de la rue Porte de Paris arrive à son terme. En effet, la rue sera rendue à la circulation le jeudi 23 juin. Comme prévu, le projet est bien dans les clous.
Organisé tous les deux ans au château de Mauléon, les médiévales reviennent.
En 2018, plus de 5000 personnes s'étaient retrouvées pour se replonger à l'époque moyenâgeuse, l'espace d'un week-end avec des campements d'époque, des spectacles et des démonstrations. Cette troisième édition ne dérogera pas à la règle avec la présence de 9 compagnies du Grand Ouest, dont la confrérie du Poitou basée à Moulins, en charge de leur sélection. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils vivent tous pleinement leur passion, comme on le ressent à travers les propos de Christophe Faribault, c'est le président fondateur de la confrérie du Poitou.
Nous sommes des médiévistes et donc notre passion est de vivre au temps du Moyen-Âge en confectionnant nos costumes qui sont généralement des répliques exactes par rapport à ce qui se faisait dans le temps. Nous vivons moyenâgeux également, c'est-à-dire que nous mangeons, nous buvons, nous dormons à la mode Moyen-Âge sur plusieurs jours et même en dehors des heures accessibles au public. après ces quelques années de pénibilité liées à la pandémie, c'est un moment de se retrouver tous ensemble, de rentrer dans un monde parallèle où tout le monde sera, je dirais, heureux de vivre loin de tous les pénibilités que nous connaissons au quotidien.
Le coup d'envoi de ces médiévales à Mauléon sera donné le samedi 21 mai devant la passerelle où plus de 300 personnes costumées, jongleurs et chassiers, musiciens et autres saltimbanques déambuleront vers le château, théâtre des animations et initiations à des savoir-faire ancestraux. Durant tout le week-end, quelques nouveautés sont à signaler pour cette troisième édition des médiévales à Mauléon. Écoutez Emeline Jaouen, responsable du pôle promotion et développement du territoire.
Oui, tout à fait, hormis d'accueillir de nouvelles compagnies médiévales, on a aussi de nouveaux partenaires. On aura de nouveaux forgerons, on aura aussi un atelier peinture pour cette troisième édition. On aura la troupe Dansons Jadis qui va faire de l'initiation à la danse médiévale. Et on aura aussi les écuries Saint-Nicolas qui vont proposer des balades en attelage dans le centre-ville de Mauléon.
Le plus important dans ce genre d'animation, c'est justement la participation du public, faire participer le public.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que toutes les compagnies médiévales, donc les 9 compagnies, proposent au public de faire des jeux, de découvrir tout ce qui va être autour des archers, etc. Et tous nos partenaires associatifs qui sont présents sur la manifestation font de la démonstration et du participatif. Et donc, les personnes pourront faire de l'atelier vannerie, de l'atelier peinture, essayer aussi avec les forgerons quelques outils à créer.
Les médiévales de Mauléon, donc, tout ce week-end, 21 et 22 mai. Reportage de Patrice Bémanangy.
Allez, on termine cette édition, Fabien, avec une info qui nous concerne, mais qui vous concerne aussi.
En effet, puisque Colline, la radio, change de président après 10 ans de mandat, Yves Bazin a souhaité passer la main, mais sans pour autant s'éloigner vraiment, puisqu'il devient vice-président.
Vincent est là depuis presque 30 ans aussi. Il est connu et reconnu dans le bocage et au-delà, et à la radio bien sûr, puisqu'il est très investi.
Alors Yves, qu'est-ce qu'on retient de ces 10 années ?
Le studio, pour commencer, il y a 10 ans, si on veut remonter jusqu'à une dizaine d'années. Et puis la pérennisation des emplois. Colline, c'est une PME, il y a un budget important, il y a des salariés, c'est une ligne directrice, un état d'esprit, une équipe, parce qu'on parle du président, mais le président n'est pas seul, c'est une équipe, et avec un bon esprit d'équipe. On a construit pendant ces 10 ans, on a développé l'arrivée du numérique et du digital, on a mis du matériel performant, donc ça fonctionne très bien.
Et c'est donc Vincent Nori qui reprend le flambeau. Si la radio est une évidence pour Vincent qui est là depuis 1994, la présidence ne l'était pas forcément, mais le jeune quinca s'est laissé convaincre.
Ce qui m'a un peu surpris, c'était la proposition de Yves, parce que moi, la radio, c'est avant tout le terrain, quoi. Moi, c'est ce qui m'intéresse, d'aller à la rencontre des gens, de faire partager ce qu'ils vivent. Alors, dans le sport, ok, mais pas que. Il y a plein de sujets qui m'intéressent. Quand Yves m'a dit, tiens, on a pensé à toi pour la présidence, j'étais au départ très surpris. Puis après, je me suis dit, bon, allez, la cinquantaine passée, c'est peut-être le moment aussi, à un moment donné, de prendre ses responsabilités, puis de pas toujours se reposer sur les autres. Et effectivement, ouais, c'est un peu dans mon ADN, quoi, que de faire de la radio. Donc, j'ai dit, ok, on y va. C'est d'abord un changement dans la continuité, avec quelques maîtres mots à retenir, mais qui font déjà l'ADN de Colline depuis de nombreuses années. C'est radio de proximité avant tout, radio de qualité. L'un peut aller avec l'autre, qu'on se le dise, avec de très bons journaux d'information, avec une programmation musicale que je ne cesse de vanter quand je suis à l'antenne. Et puis, c'est aussi être sérieux sans se prendre au sérieux. Je pense que ça, c'est important. Et puis moi, je connais l'équipe, quoi. Enfin, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi, il y a aussi un bureau, je sais que je pars pas dans l'inconnu.
Vincent Nori, nouveau président de Colline à la suite de Yves Bazin qui reste à ses côtés à la vice-présidence. Et on peut rassurer tous ceux qui adorent écouter Vincent s'enflammer à la Meilleraie comme hier soir.
François, il se passe un truc, Cholet Basket va aller chercher sa place en play-off.
Vincent reste donc un homme de terrain, on l'a encore vu hier soir, il va continuer à commenter les événements sportifs notamment, mais pas seulement d'ailleurs. On est impatient hein, de vivre les playoffs à la Mairie. Et on a la date, David, pour le match retour. Ce sera le vendredi 27 à Cholet, à la Mairie, à 20h30. Ce sera évidemment à suivre sur Colline. Et on devrait retrouver, je pense, Vincent et François qui ne devraient pas passer leur tour hein, pour cette rencontre. Le match aller est prévu le mardi 24 à l'Astrobal.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Et attention Fabien ?
Ouais, ça pourrait tourner à l'orage dans la soirée. Les Deux-Sèvres sont placés en vigilance jaune à partir de 22h jusqu'à 9h demain matin. Ambiance orageuse peut-être donc encore demain pour la première moitié de matinée. Le reste de la journée devrait être calme. Partage du ciel entre soleil et nuages, un vent faible. 15 degrés pour les minimales. Demain matin, c'est déjà pas mal. Et 25 à 27 degrés pour les maximales. Un petit peu moins qu'aujourd'hui. Mais bon,
ça reste élevé. Mai,
ça reste élevé, effectivement.
Merci beaucoup, Fabien. Retour d'info près de chez nous.
Demain matin, 7h avec Patrice Bémanangy. Bonne soirée. C'était la